Bonjour. Donc, je suis Michel Roland, je suis co-responsable de l'URFIST de Nice. Et depuis 3 ans, président de la. On a fait une association sur les URFIST pour pouvoir matérialiser nos activités réseau. Et ils m'ont collé président. Donc, je suis président de cette association. Et depuis l'année dernière, je suis le pilote du segment 9. De la BSN. Je terminerai mon petit exposé sur cet aspect-là. Elisabeth m'avait demandé de faire une intervention qui évoque les partenariats et en même temps qui nous situe dans le paysage de la formation. Donc je vais faire une présentation rapide des URFIST parce que je pense que vous les connaissez, mais je rappellerai certains éléments, enfin notre ADN en quelque sorte, hein, les éléments de base qui définissent les URFIST. Ne regardez pas tout de suite ce petit schéma-là. J'ai pas fait de PowerPoint, hein, je ne devais pas intervenir au départ, donc je saute un peu dans le bateau à la dernière minute. Mais je profiterai de cette d'une petite considération historique pour réfléchir à nos missions et à partir de nos missions comment on peut contribuer au partenariat. On va réfléchir par rapport à ce qui était les URFIST au départ et ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements. J'ai beaucoup apprécié l'exposé d'Elisabeth qui montre bien l'évolution. On fait le 26 novembre une journée nationale d'études sur 30 ans de politique d'IST. C'est le 30e anniversaire. Elisabeth a montré qu'en 82, il y a beaucoup d'IST, enfin de quelque chose IST qui se sont développés, dont les URFIST, enfin qui sont créés, dont les URFIST. Donc c'est notre 30e anniversaire cette année. Depuis 19 ans, tout à fait précisément à l'exposé que tu viens de nous faire. Alors, rapidement, donc sur les URFIST, hein, unité régionale de formation à l'IST. Je garde l'IST comme un ensemble pour l'instant. Je reviendrai peut-être dessus. On est 7 URFIST, c'est-à-dire qu'on se partage le territoire national, sauf le Nord. Il y avait une URFIST à Lille qui a disparu et qui n'a jamais été remplacée. Si on a le temps, je dirais un mot de cette situation-là, c'est-à-dire qu'on est régional, ce sont des unités régionales, et donc nous sommes des structures dont les missions sont interuniversitaires. Celles qui posent des petites questions aujourd'hui par rapport à l'LRU. Comment on existe? Quel est notre ancrage institutionnel? On est créé par convention entre soit une université, soit un presse et le ministère. C'est-à-dire que nous avons un statut un peu spécial du point de vue administratif. Nous ne sommes pas des services des universités au niveau fonctionnel. Mais nous sommes rattachés à chaque fois à une université, généralement à travers le SCD de cette université. Les URFIST sont dirigés par un tandem. Alors, diriger, c'est un grand mot parce que ce sont des toutes petites équipes en réalité. Hein. Sauf l'URFIST de Paris, qui est un peu plus importante, c'est 2 ou 3 personnes. Typiquement, c'est un conservateur de bibliothèque, un ou une conservateur de bibliothèque, un ou une enseignant chercheur et un ou une personnel administratif. Hein, le modèle, c'est à peu près celui-là. Alors, là-dedans, il y a 2 choses importantes. D'abord, c'est le fait que les URFIST sont des lieux où se rencontrent 2 cultures du monde universitaire, la culture de la documentation, des bibliothécaires, et la culture des enseignants-chercheurs. Et bon, je ne vous apprends rien en vous disant que ce sont deux cultures très différentes. C'est un travail pratiquement de tous les jours que de les faire fonctionner ensemble, mais c'est assez passionnant. Deuxième chose importante, on est des toutes petites structures. Hein? Ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que ça nous donne une très grande souplesse. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas une très grande visibilité en étant une petite structure. Hein? Et régulièrement, dans nos établissements, on entend « Ah bon, mais les urfistes, ça existe, qu'est-ce que c'était ?» On va voir que les partenariats récents nous permettent une visibilité qui est plus grande, y compris au sein de nos universités. Alors, le public des urfistes, il est défini avec une petite évolution. Au départ, c'était d'abord les enseignants-chercheurs, les personnels de la documentation et les étudiants à partir de la maîtrise, donc aujourd'hui du master. Je reviendrai sur la question des publics parce que c'est important, et en particulier tout à l'heure, pendant ton exposé, je réfléchissais au fait que la journée est évidemment très orientée vers la formation des étudiants. Ben, je pourrais dire tout de suite, ça n'est pas dans nos missions, les urfistes. Voilà. Donc, il faut éclaircir exactement comment on peut s'insérer dans un paysage global ou ce qui vous intéresse. Vous êtes essentiellement, j'ai vu des responsables de formation dans les SCD, hein, je crois, quand j'ai regardé la liste des inscrits, ce qu'on appelle la formation des usagers. Les usagers, c'est d'abord pour vous des étudiants. Alors, on va voir comment on peut travailler avec vous de ce point de vue-là. En quantité, on fait à peu près 500, un peu plus de 500 actions de formation par an. Ce sont des actions qui peuvent qui durer entre 2 jours, enfin 12 heures et 3 heures. Hein. On donne, alors là c'est globalement, hein, au niveau du réseau des urfistes, on donne quelque chose comme 3 500 heures de formation par an, ce qui correspond, alors dans les statistiques qu'on fait habituellement, que nous demande le ministère, à autour de 7 500 personnes formées par an. Alors 7 500, c'est pas mal, mais en fait le mode de calcul, c'est que si une personne suit 3 formations, ça fait 3 personnes formées. Donc ça ne représente pas exactement la population touchée par nos formations. Alors nos missions là-dedans, bon, ben, c'est dans URFIS, hein, c'est formation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière formation? Puis il y a un petit peu plus que simplement de la formation. C'est là que j'en arrive à notre... au schéma que j'ai mis là. Alors, pour apprécier un peu plus précisément nos missions aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur la situation d'origine, celle à quoi a fait allusion Elisabeth, c'est-à-dire 1982. Pourquoi les URFIST en 82 ont été mis en place? Ben, au départ, on avait une mission qui était très précise. Elisabeth l'a évoqué, c'était la formation à la RDI, et très précisément, ce qu'on appelait la RDI, la recherche documentaire informatisée, et très précisément la formation des personnels de bibliothèque qui allaient être les médiateurs entre les bases de données et les chercheurs, enseignants-chercheurs, mais plutôt chercheurs dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'on avait une répartition assez claire et simple des rôles. Au sein des SCD, il y avait une équipe qui était petite équipe, qui était l'équipe de la RDI. Je me souviens à Nice, à l'époque, il y avait 2 personnes dans la section que je dirigeais. C'était des équipes assez peu nombreuses, qui allaient se former à l'URFIST au langage spécifique des bases de données qui seraient interrogées. Hein? Et les séances de RDI, ça se passait, le chercheur venait, s'asseyait à côté du personnel de la documentation, donc conservateur en général, on formulait les équations de recherche et puis le bibliothécaire traduisait ça dans le langage de la base de données particulière. Ça correspondait à une nouvelle fonction dans les bibliothèques universitaires et donc les URFIS ont d'abord été créés pour répondre à ce besoin nouveau. hein, développer les compétences de ces intermédiaires entre les bases de données et les usagers de ces bases de données. Il y a quand même un signe, c'est le fameux IST, c'est-à-dire que quand Denis Varlot, c'est Denis Varlot qui était à l'initiative de cette création, qui interviendra le 26 novembre, justement, ça nous permettra de voir si ses intentions correspondaient au développement futur. Mais on pouvait se dire qu'en mettant comme sigle, comme acronyme, Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, il voyait plus loin que cette fonction bien précise qui était de former à l'interrogation des bases de données. Hein, cette fonction-là n'était pas explicitement déclinée dans le nom des URFIST, c'était une mission qui était plus large. Et du coup, en ces 30 ans, c'est sur cette base-là, sur cette mission telle qu'elle est définie dans notre nom, que notre activité a évolué et a évolué de façon assez, j'allais dire dramatique, mais ne voyez pas ça de façon négative. On n'est plus du tout dans le même contexte. Mais au départ, on pouvait se dire que déjà à l'époque on faisait de la RDI, que l'évolution des interfaces ferait que de plus en plus ce serait directement l'usager qui irait interroger la base de données. Hein, Elisabeth l'a évoqué aussi, mais je me souviens très bien comment on regardait l'évolution des langages, il y a une certaine standardisation qui se faisait, et puis bon, l'Internet a complètement fait éclater cette structure de médiation avec un professionnel, etc. L'Internet d'abord, et je dirais surtout ce qu'on a appelé la documentation électronique, c'est-à-dire l'accès en ligne par le biais des gros contrats avec Elsevier au départ, l'accès en ligne aux revues scientifiques, c'est-à-dire à la documentation scientifique électronique. D'un coup, l'usager, le chercheur, avait sur son ordinateur, dans son bureau, l'accès à ces bases de données qu'il allait chercher auparavant à la bibliothèque. Donc, on pourrait dire que l'accès à l'information scientifique, c'est à la fois banalisé et c'est individualisé par le biais et d'Internet et des interfaces. D'où, j'ai essayé de faire un petit schéma, il est pas tout à fait, il est loin d'être parfait, mais c'était pour moi une façon de m'aider à y réfléchir. Aujourd'hui, si on regarde quelles sont nos missions, alors en haut, évidemment, la formation, hein, c'est celle qui nous définit. Si on regarde ce qu'on fait, en gros, ça se répartit sur quatre domaines. J'ai oublié quelque chose là, enfin je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas noté, c'est que derrière formation, il faut rajouter aussi, Elisabeth l'a encore une fois l'a bien montré, la production pédagogique, hein, la production de documents. C'est disons que c'est de formation, comprenons la formation en présentiel et la formation aussi en distanciel. Donc autour de cette mission de formation, il y a une mission de veille, parce que les pratiques d'accès à l'information, les interfaces, les offres d'information changent tout le temps. Hein. Et on ne peut pas penser à une mission de formation sans qu'il y ait accosté à cette mission de formation une mission de veille constante. Notre outil de veille principal, c'est le blog du réseau des URFIST, qui s'appelle URFIST Info, vous connaissez peut-être, qui existe depuis je ne sais pas exactement quelle année. C'était Olivier Hertzscheid qui avait lancé la chose, et qui est aujourd'hui hébergé par le CLEO sur la plateforme Hypothèse, que vous connaissez sans doute, hein, la plateforme de carnet de recherche. De l'autre côté, mission de recherche, c'est-à-dire que la veille, c'est examiner ce qui se passe, la recherche, c'est mieux comprendre ce qui se passe et anticiper les évolutions. en quelque sorte. Et puis il y a une quatrième, ces trois fonctions-là, formation, veille, recherche, sont bien identifiées chez nous. Il y a une quatrième fonction qui est plus nouvelle, mais qui peut être appelée à se développer parce qu'elles sont liées aux autres. C'est une fonction d'expertise. Il arrive de plus en plus souvent qu'on nous demande, par rapport à un projet local lié à la formation numérique, de donner une aide à l'élaboration du projet. Ça peut être par exemple une université ou un SCD qui veut mettre en place une plateforme d'archives ouvertes. Hein, et on va nous demander d'aider à la mise en place d'un cahier des charges. Ça peut être des expertises sur des outils particuliers. Voilà, on a ces quatre fonctions-là. En les mettant comme ça, je me suis aperçu qu'elles s'organisaient d'une part en fonction des pratiques. C'est-à-dire qu'on a d'une part des pratiques j'avais d'abord mis pratiques traditionnelles, mais traditionnelles, il y a un sens un peu presque péjoratif. Donc j'appellerais ça plutôt les pratiques validées. Nos formes classiques d'intervention dans les formations, hein, faire des formations en présentiel, etc. Le cadre de la recherche, c'est-à-dire la recherche universitaire, régulièrement, des maîtres de conférences et de façon moindre, enfin des anciens chercheurs et de façon moindre des bibliothécaires, des URFIS publient des articles de recherche sur l'information literacy, sur la translittératie, etc. Et puis de l'autre côté, la veille et l'expertise va plutôt du côté des nouvelles pratiques et les nouvelles pratiques de l'information, les nouvelles pratiques du web. On a parlé des digital natives, des natifs, des indigènes, des natifs du numérique. Hein. La veille essaye justement de surveiller ce qui se passe au niveau des pratiques de ceux qui seront nos étudiants. Et les expertises sont souvent des expertises sur des nouveaux outils qui sont développés. Puis dans l'autre sens, dans l'autre axe, on a aussi les missions qui concernent des compétences générales, l'information literacy, la maîtrise de l'information, la translittératie, et de l'autre côté, des compétences qui sont plutôt spécifiques. Sur certains outils. C'est une orientation générale. Tout ça se nuance. Hein. Puis ici, il y a verticalement ce que nous produisons, c'est-à-dire des formations, éventuellement des expertises. Et puis de l'autre côté, la veille et la recherche, c'est plutôt ce par quoi nous nourrissons ce que nous produisons. On reviendra sur ce schéma quand je parlerai de la BSN, puisque je parlerai de la BSN. Sur nos publics, vous avez vu au départ, les publics étaient clairement identifiés. C'était des personnes de la documentation. Mais des personnes de la documentation qui étaient des personnes très spécifiques au sein des établissements, et derrière ces personnes de la documentation, il y avait les enseignants-chercheurs. Hein? Je vous ai dit, les deux publics de base de les URFIST, enseignants-chercheurs et personnes de la documentation, au départ, ils étaient en ligne, comme ça, et puis là, maintenant, ce sont deux publics différents. Vous voyez que ça change beaucoup la configuration, c'est-à-dire que ça n'est plus dans une chaîne. Hein. Ce sont des compétences qui vont être développées en parallèle. Et le fait que les URFIST soient dirigés par un tandem permet aussi de construire un langage commun entre les enseignants-chercheurs et les personnes de la documentation qui se retrouvent au sein de nos formations. Ceci dit, ça c'est la définition, hein, de nos missions. Si on regarde sur les dernières années, les personnes de documentation représentent entre 30 et 25% de nos publics, les enseignants-chercheurs entre 5 et 10%. Alors la grosse masse, ces dernières années, ce sont les doctorants. C'est là qu'on retrouve vos étudiants, hein, en quelque sorte. Au départ, on a considéré que les URFIS ne s'adressaient aux étudiants avancés, donc à partir du master. Ces dernières années, sous l'impulsion en particulier de la MISTERD, de la mission à l'information scientifique et technique et au réseau documentaire, on a radicalisé la chose et en fait, on nous a demandé de ne plus nous adresser du tout aux étudiants. Et c'est peut-être plus clair pour nos partenariats, justement. Hein. Et en particulier quand on veut définir la façon dont on peut travailler avec les SCD. Restent les doctorants. On a insisté pour garder les doctorants dans notre sphère de compétences. Et de fait, aujourd'hui, c'est 60%. On a beaucoup de doctorants, soit par le biais de travail avec les écoles doctorales, c'est-à-dire que les formations sont prescrites dans le cadre des écoles doctorales. Et là, on travaille vraiment étroitement en partenariat avec les SCD, c'est-à-dire que généralement, ce sont les SCD qui offrent un programme, enfin, qui mettent en place un programme de formation des doctorants pour les écoles doctorales, et ensuite les SCD font appel aux URFIS pour remplir en quelque sorte une partie ou l'essentiel de ce programme-là. C'est un mode qui nous convient tout à fait. Quand je me souviens qu'au début où ça s'est mis en place dans notre région, hein, Provence et Corse, on parlait directement avec les écoles doctorales et c'était très difficile. Avec un partenaire local qui fasse la médiation là-dessus, ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, c'est un vecteur de notoriété pour nous parce que souvent, les universités en question découvrent les URFIS par le biais de cette mise en place de formation dans les écoles doctorales. Alors, le principe là-dedans, c'est que les doctorants sont déjà des chercheurs. Hein? Mais ça pose un gros problème, malgré tout, de cohérence de la formation des étudiants tout le long. Quelqu'un a dit ce matin, a évoqué le secondaire ce matin, et effectivement, quoi, on va dire qu'on voit. Là où on intervient, c'est-à-dire depuis les écoles doctorales, on voit toute la perspective, le besoin qu'on a d'une formation suivie qui commencerait au secondaire. Concrètement, il est rare que dans une de nos formations aux écoles doctorales, il n'y ait pas quelqu'un, voire plusieurs doctorants, qui nous disent « Mais vous nous dites ça maintenant? Hein? C'est trop tard. C'est avant qu'on aurait dû nous montrer tel outil, tel outil, tel outil. » Hein? Je pense en particulier, ça m'arrive assez souvent, parce que je fais pas mal de formations aux outils du web. La gestion des signés en ligne, par exemple. Hein? Comment ne pas être passif par rapport au flux d'informations et avoir des outils qui permettent de mémoriser, c'est-à-dire d'enregistrer les choses utiles qu'on a trouvées. Je fais une formation sur Digo, par exemple. Bon, on me dit tout de suite, oui, mais ça. C'est au niveau du master, voire de la licence, que j'aurais eu besoin de ça. Gabriel, le co-responsable de l'URFIS de Nice, fait des formations à Zotero. Alors, Zotero, c'est un outil qui a un succès extraordinaire auprès de nos stagiaires, mais régulièrement, il a en face de lui un doctorant qui lui dit ben, « Moi, j'ai fait toute ma bibliographie sous Word, et c'est maintenant que vous me parlez de Zotero. » Donc, il y a vraiment là un problème où on vient un peu tard sur une situation où on devrait pas intervenir sur ces outils-là, en quelque sorte. D'où la question de formation des formateurs. Hein? Et là, on a un déficit, je dirais, de partenariat encore aujourd'hui, c'est que il n'est pas toujours clairement articulé vos projets de formation. Je dis vos projets de formation, je vous interpelle comme responsable formation dans la SCD, comme ça globalement, et ce que peut faire l'URFIST par rapport à ça. Je pense qu'on a des réserves de partenariat et d'articulation de stratégies complémentaires possibles assez énormes quant à ça. Donc, je parle maintenant des partenariats, hein. On a des partenariats, je dirais, traditionnels, anciens, en particulier avec l'ENSIM, avec Formist, d'où ma présence ici. Non. Même si on n'avait pas cette tradition, je pense que on aurait pu intervenir là-dessus. On a un partenariat, je vous ai parlé du Cléo, hein, par exemple, on a un partenariat assez établi avec le Cléo. Vous voyez ce qu'est le Cléo, hein, revue.org, puis Hypothèse. Mais je voudrais insister sur quelques partenariats qui posent des problèmes d'articulation stratégique et qui sont avec des enjeux forts derrière. Les ED, les écoles doctorales, je vous en ai parlé. On a des partenariats aussi avec les TIS. On a défini translittératie, information literacy, media literacy, et puis maîtrise des technologies spécifiques pour l'enseignement. Et les TIS, vous savez, les TIS sont porteurs de la certification C2I. Hein? La certification C2I, c'est une façon de mesurer ces compétences qu'on va avoir, qu'on rencontre quand on a les doctorants, par exemple. Vous savez que les C2I fonctionnent à plusieurs niveaux, hein. Il y a un niveau 2 qui est le niveau métier, et puis il y a le niveau 1 qui est celui des étudiants. On parlait du secondaire tout à l'heure, le C2I, c'est en quelque sorte la déclinaison au niveau supérieur du B2I. Hein. Là aussi, il y a de quoi avoir une logique sur du long terme, enfin sur un programme à long terme. Là aussi, il y a des réserves d'articulation de stratégie sur du long terme et de partenariat. Parce que nos échanges avec les TIS restent comment on pourrait dire ça, de la circonstance locale et ponctuelle. Sur la définition même des C2I, je vois, quand on a participé à des formations C2I, à des formations de formateurs C2I également, il y a une évolution qui est un petit peu lente, d'une conception assez traditionnelle de ce qu'est la maîtrise numérique, enfin du numérique, ce que sont les compétences numériques, très appuyée sur d'abord les questions de sécurité. On voit là le rôle des DSI. Hein, comment me servir d'un ordinateur en toute sécurité, y compris à la fois de la sauvegarde, mais des intrusions, etc. Et puis sur la bureautique. Hein, la bureautique a une. J'ai une dent personnellement contre la bureautique. Je trouve que la bureautique continue à avoir une influence sur la conception qu'on a des compétences numériques qui est plus du tout, qui correspond plus du tout à l'état de l'information numérique aujourd'hui. Mais il est évident que c'est appelé à évoluer. Ça me fait penser à une chose que je m'ai dite en écoutant Elisabeth. Il y a quelque chose d'un petit peu désespérant dans le tableau qu'elle nous a brossé. Je vois tous les beaux projets qu'on a faits, y compris dans le réseau des urfistes. Hein, on a l'impression qu'on court après quelque chose sans jamais pouvoir le rattraper. C'est-à-dire qu'en réalité, que les pratiques vont toujours plus vite que les outils qu'on met en place pour maîtriser ces pratiques. Et pratiquement tous les 2 ou 3 ans, on est obligé de tout repenser à zéro. Hein. Je pense à une chose en particulier, c'est quand on parle de maîtrise de la formation, concrètement, on parle souvent de maîtrise de la documentation. Hein. Tu as dit très justement que on était sorti d'un cadre où la forme par excellence de l'information dans le domaine universitaire, c'est la documentation, c'est-à-dire une information qui est habillée, équipée, validée, etc. Et on est rentré dans un monde d'informations multiformes. Souvent, la maîtrise de l'information, c'est dire aux étudiants, attention, ce que vous trouvez sur le web, c'est pas du sûr. La bonne information, c'est ce que vous trouvez ici et là, et on retrouve la documentation. Hein. À partir de ce moment-là, on est en terrain connu. Pour nous, c'est rassurant, mais on est en décalage complet avec ce qui se retrouve en face de nos étudiants. Je pense qu'un partenariat avec les TIS, là, permettrait peut-être. Enfin, là, il y a un chantier, quoi. Il y a un autre partenaire qu'on rencontre de plus en plus dans nos universités, c'est les services de formation continue universitaire. Hein? Vous avez vu sur la définition de nos publics, à part les doctorants, alors en masse, ça fait beaucoup de monde, ça fait plus de la moitié de nos publics. Reste quand même que les personnels de la documentation et que les enseignants-chercheurs sont des publics qui sont. On demande de privilégier, même s'ils sont moins nombreux, ce sont des publics plus importants, enfin, pas comment dire, importants en tout cas. Bon, ceux-là sont visés, en principe, par la formation continue universitaire. C'est-à-dire que nos formations sont des formations, rentrent dans le cadre de la formation continue universitaire, en principe. C'est plus ou moins acté. Selon les universités. Et en particulier, il y a une problématique qui se pose dans les services du FCU, formation continue universitaire, c'est la prise en compte des enseignants-chercheurs. C'est que la formation continue dans les universités, ça a été longtemps, et ça reste encore dans beaucoup de cas, la formation des personnels biatos. On considère que l'enseignant ou l'enseignant-chercheur n'a pas besoin de formation continue. Et d'ailleurs, les services de formation continue sont mal équipés pour répondre aux besoins des enseignants-chercheurs. Mais petit à petit, dans la logique de la LRU, les enseignants-chercheurs font partie du pool de personnel de l'université et donc leur formation continue doit être prise en charge par l'université. Je dis les enseignants-chercheurs ne sont pas des personnels visés par la formation continue. C'est vrai aussi dans la tête de certains enseignants-chercheurs qui ont tendance à estimer qu'à partir du moment où ils ont passé un concours, ils sont passés du statut d'apprenant en statut d'apprenneur. Hein, et c'est quelquefois un des challenges qu'on a, enfin des défis qu'on a, de les faire venir à des formations. Ils sont, pour un grand nombre d'entre eux, réticents à se retrouver en position d'écoute. C'est une sorte de régression pour eux. Enfin, quatrième partenaire, sur la FCU, on a un vecteur qui nous aide aussi, enfin là je pense à Nice hein, en particulier, le service d'information continue, en face des nouvelles demandes qu'on donne au service d'information continue, c'est trouver en besoin de mettre en place un outil de signalement de leur formation et ils ont utilisé une instance de l'outil que les URFIS ont mis en place, qui s'appelle SIGEFORT. Et donc, ça a permis aussi un échange tout à fait fructueux. Quatrième partenaire, les SCD, évidemment. Hein? Et je dirais les SCD plus les CRFCB, c'est un petit peu dans la même, sur le même chantier ou dans la même problématique. Hein? Bon, on a vu que la mission des formations des usagers dans les SCD, c'est une tradition qui remonte loin. Elisabeth a fait l'historique. Dans les derniers temps, il y a un renforcement de la formation. On constate, je crois constater, un renforcement de l'activité des SCD dans la formation de leur personnel à la maîtrise de l'information. C'est sans doute dû à la logique de la LRU, me semble-t-il, et aux problèmes qui ont été ceux des CFCB ces dernières années. On constate que de façon irrégulière, selon les endroits, il y a des formations qui étaient prises en charge par les CFCB, qui sont prises en charge par les SCD eux-mêmes. Et pour nous, il y a une définition encore une fois, de complémentarité entre ce que font les SCD et donc vous, hein, les services de formation des SCD, et ce que font les unités régionales, les URFIS régionaux. C'est pas toujours clair. Enfin, je vous donne mon point de vue. Hein, vous pouvez avoir un point de vue différent, vous me le dites, mais la complémentarité des missions n'est pas toujours claire. Il est quelquefois nécessaire d'éclaircir le contenu des formations pour s'apercevoir que ce ne sont pas les mêmes formations. Il y a eu, il y a 2 ans, un groupe de travail sur les CFCB. Bon, vous savez qu'ils ont eu des mésaventures, hein, les CFCB, au niveau de leur financement. Et on a réfléchi à. Enfin, on m'avait demandé de participer à ce groupe de travail. On s'est aperçu que assez souvent, on était compris comme concurrents. Mais si on regardait pratiquement, si on discutait, on s'est aperçu qu'on était complémentaires. C'est-à-dire que souvent, la concurrence ressentie était un malentendu sur le contenu des formations. Et du coup, la solution était de mieux expliciter le contenu des formations, et à ce moment-là, le malentendu était levé. Et puis, dans les cas où il y avait vraiment un recouvrement, ça pouvait se régler très facilement en voyant qui prenait en charge cette formation, et on ne se marchait pas sur les pieds. Je me suis aperçu que selon les régions, on avait des types de rapports entre les URFIS et les CFCB qui étaient très différents. Là où il y avait une tradition forte de coopération, il n'y avait pas de problème. Mais il y a des endroits, pas beaucoup, hein, mais il y a des endroits où cette tradition de coopération n'est pas installée. Et à ce moment-là, on a des cas de friction, de concurrence. Donc si on regarde maintenant l'avenir, hein, sur ce tableau-là, il y a 2 lignes importantes pour nous qui posent question et puis qui ouvrent un avenir. Je dirais, il y a la LRU. C'est la question de notre avenir institutionnel. Et puis il y a le chantier BSN. Je vous dirai 2 mots de la BSN. Bon, la LRU, j'y ai fait allusion. Clairement, on a un problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un rapport de l'inspection générale des bibliothèques qui prônait tout simplement notre disparition en tant qu'unité régionale, c'est-à-dire notre fusion dans les SCD, dans les services de formation des SCD, en donnant comme raison que, en gros, nos missions avaient été accomplies. Et que l'information literacy dans les universités, c'est bon, c'était fait, on n'avait plus besoin de structures spécifiques pour le faire. Je caricature un peu, hein, mais, ou plutôt je brutalise un peu la formation, mais ça revenait à ça. Mais une des raisons principales de cette. Ça, c'était la raison fonctionnelle, en quelque sorte. Il y avait une raison institutionnelle, c'était que nous sommes des structures interuniversitaires. Nous avons des missions qui sont régionales, mais pourtant, nous appartenons à une université. Et c'est très délicat à gérer. Hein? Évidemment, l'université de rattachement a tendance à considérer l'URFIST comme un service de l'université et à se demander qu'est-ce que va faire, ben pour nous, qu'est-ce qu'on va faire à Marseille, pour l'université de Nice, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire à Toulon, à Corte ou à Avignon. On ne sert pas l'université de Nice en le faisant. Enfin, ou du moins, il semble qu'on la serve pas. Une interprétation, je dirais, fondamentaliste de la LRU, ben oui, aurait eu pour conséquence que les URFIS ne pouvaient plus continuer comme ça. De fait, le ministère, la mission, sur une ligne stratégique qui a été répétée par le précédent directeur, Patrick Hetzel, hein, a maintenu un niveau d'interuniversitaire minimum, nous a protégés en quelque sorte contre une interprétation intégriste de la LRU. Reste malgré tout que on s'intègre mal dans la LRU et que notre ancrage institutionnel reste un peu baroque. Hein. La garantie de nos missions interuniversitaires, c'est des conseils d'orientation auprès des URFIS où sont représentés tous les SCD de la zone de compétence. Bon, ça reste baroque et on a un besoin de repenser notre intégration. Je dirais, soit on estime que les URFIS sont obsolètes, sont inutiles, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de les maintenir, Hein? Soit on estime qu'ils sont utiles, que ce lien enfin, régional, interuniversitaire, et ce lien entre les enseignants-chercheurs et les personnes de la documentation, aussi ce côté un peu expérimental que sont nos activités, sont utiles, et à ce moment-là, il faudrait refonder l'existence institutionnelle des urfistes. Je pense au cas de l'URFIS de Lille, par exemple, hein, qui n'a jamais été remplacé. Alors, soit on pense qu'on a besoin de couvrir le territoire avec ce type d'unité, et à ce moment-là, il faudrait reconstituer l'URFIS de Lille, soit on peut s'en passer, et à ce moment-là, il n'y a pas trop de raison qu'à Lille, on s'en passe, et puis qu'on ne s'en passe pas à Toulouse ou à Lyon ou à Nice. Hein. Donc, un chantier qui peut être l'occasion pour nous de nous repenser au niveau de nos fonctions de base, c'est le chantier BSN. Alors, je pense que vous avez tous maintenant entendu parler de la BSN. Vous savez que ce n'est pas une bibliothèque numérique, malgré son nom, hein. C'est la première chose à dire. Il y a un site web qui est en train d'être mis en place pour la BSN qui permettra de voir un peu plus précisément le travail de chacun des segments. Aujourd'hui, la présentation synthétique la plus claire que j'ai trouvée, c'est celle qui se trouve sur le site du Cléo, où il y a un petit historique et puis une petite définition de ce que c'est. Et surtout, vous allez voir les 9 segments de la BSN. Alors, quand on me demande qu'est-ce que c'est que la BSN, je suis toujours un petit peu embêté parce qu'effectivement, il faut commencer à dire que ce n'est pas une bibliothèque numérique, ce qui saute aux yeux à tout le monde. Donc, on a l'impression que c'est une sorte de super Gallica, ben, pas du tout. C'est une infrastructure de recherche. C'est un endroit où les acteurs du numérique, de l'information numérique, vous remarquez que j'ai pas beaucoup employé IST. Hein. IST, c'est information scientifique et technique. J'essaye de plutôt employer information scientifique numérique, qui correspond plus à l'état actuel de ces choses. Et puis, il n'y a pas cette connotation technique. Donc, c'est un endroit où les acteurs de l'information scientifique numérique se retrouvent pour articuler leur stratégie. La bibliothèque scientifique numérique étant en quelque sorte le résultat de cette convergence. C'est-à-dire d'avoir une infrastructure numérique de recherche qui soit cohérente par le biais de tous les acteurs qui interviennent dedans. Vous remarquez que c'est un dispositif. Alors, il doit pas mal à ce qui s'était fait dans le cadre des archives ouvertes il y a quelques années, où pour définir la politique des archives ouvertes, on avait mis tous les acteurs autour d'une table. C'est un dispositif qui est en quelque sorte compatible avec la LRU, enfin, la LRU si on parle des universités, mais qui est compatible de façon générale. Ce n'est pas un gros machin qui aurait son budget, qui serait centralisé et qui viendrait prendre les moyens pour faire une super bibliothèque. C'est un lieu de concertation où les acteurs viennent en tant que responsables de différents projets. Alors, vous voyez, ça s'articule en 8 segments. Ça va de l'accès à la documentation électronique, ça passe par les archives ouvertes, ça passe par le signalement de l'information numérique. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Oui, l'édition scientifique publique, la fourniture de documents. Le prêt entre bibliothèques, c'est un segment. C'est au départ 8 segments définis qui correspondent, on va dire, à des activités de production ou de distribution de l'information numérique. Faire plus gros? Je vais zoomer. Encore? Ça va mieux? Je vous donne l'adresse, hein, c'est cléo.cnrs.fr/974. Voilà. Voilà les. Merci.
Vous voyez mieux là?
Bon, on voit plus que les segments, hein, mais. Voilà les segments. Alors, pour l'instant, tout cet ensemble fonctionne à partir d'un groupe de travail, qui est un groupe technique en quelque sorte, et des segments, ce qu'on appelle des segments, qui travaillent chacun individuellement avec un pilote et un copilote à chacun des segments. Je vous signale qu'il y a le 4 juillet une journée de présentation de la BSN à l'ENS Cachan. Hein, je crois que c'est la première grande journée de présentation de la BSN. Alors, pour finir notre segment, c'est le segment BSN 9, c'est le petit dernier. On a été créé l'été dernier. Au départ, on m'a demandé de participer au groupe de travail pour qu'il y ait un regard sur les questions de formation liées au projet BSN. Et moyennant quoi, on a décidé qu'il fallait faire un segment supplémentaire, un segment transversal en quelque sorte, consacré à la formation, qui s'appelait d'abord formation veille et usage, et qu'on appelle maintenant formation compétences et usage, sous l'impulsion de ma copilote, qui est Odile Ologne de l'INRA. Je suis pilote du segment 9. L'idée de base de ce segment 9, c'était d'identifier les formations nécessaires liées au projet BSN. Et en articulant trois niveaux qui sont assez différents. Les personnes qui étaient là au groupe de travail me disent les formations, il faut voir ce que demandent les producteurs, utilisateurs d'informations numériques. Mais en réalité, la demande ne correspond pas forcément aux besoins. Si on veut définir une stratégie de formation liée à l'information numérique, donc vous voyez là, on est quand même plutôt dans le domaine de la recherche que de la pédagogie. Hein. Si on veut définir une stratégie, on ne peut pas ne tenir compte que de la demande. Ça, c'est notre expérience de tous les jours. Ce qui est demandé, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et puis d'autre part, ce dont on a besoin, d'abord comment on va établir ce dont on a besoin, c'est un peu nos conceptions, mais ce dont on a besoin ou ce qu'on conçoit comme le besoin ne correspond pas forcément à la pratique, à l'usage. C'est-à-dire que si on veut articuler une stratégie de formation, il faut articuler trois niveaux différents. Le niveau de la demande, parce qu'on ne peut pas établir une offre de formation qui n'intègre pas la demande des formés éventuels, donc le niveau de la demande, le niveau du besoin, tel qu'on peut le reconnaître, et le niveau des pratiques, des usages. D'où formation, compétences et usages. Hein, la dimension compétences, c'est pour formation, c'est l'offre. Qui dit offre suppose demande. Compétences, c'est ce qu'on peut identifier comme besoin, comme finalité des formations. Et usage, c'est d'avoir l'œil sur la façon dont les intervenants agissent. Alors, on avait fait un certain nombre de préconisations. D'actions possibles qui se sont réduites, je dirais heureusement, j'ai été arrêté pendant 2 mois ce printemps. Quand je suis revenu, j'avais peur des dossiers qui nous attendaient pour la BSN. On était déjà les petits derniers, donc pas en avance sur l'ensemble du dispositif. Et en plus, j'ai été immobilisé pendant un temps. Mais finalement, on se retrouve avec deux actions. Parmi les actions qui ne sont pas... Alors, deux actions à court terme. Ça ne veut pas dire que les autres actions sont abandonnées, mais elles ne sont pas prioritaires. Alors, d'abord, les deux actions qui sont retenues, c'est de mettre en place un outil de signalement des formations à l'IST. Global. Vous savez qu'ici, à l'ENSIM, il s'est mis en place le portail BibDoc. Je crois que vous avez des petits flyers dans vos dossiers. Qui est un portail de signalement des formations à la documentation. Hein, où les partenaires, ce sont les URFIS, les CFCB, les acteurs de la formation à la documentation. L'idée serait d'élargir cet outil à l'ensemble des formations à l'IST, et en particulier des formations qui ont lieu dans les établissements de recherche. On est bien avancé de ce point là-dessus parce que l'ILIS, de toute façon, participe déjà à BIPDOC. Donc on est parti dans cette direction-là. Et si je ne peux pas être avec vous cet après-midi, c'est parce que je vais voir ici avec les responsables de BIPDOC où on en est quant à ça. L'autre direction d'action privilégiée, c'est de faire un référentiel des compétences. Ça, c'est Odile Ologne, donc la copilote du segment, qui est spécialement responsable de cet aspect-là. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais c'est d'y voir clair, et en particulier commencer par faire la recension des répertoires des référentiels de compétences qui existent, et éventuellement de les faire évoluer. C'est une remarque globale des. Ça te fait rire?
Non,
Oui.
je trouve que tout est un éternel recommencement. Donc,
Ouais.
revenir au référentiel, puis aller en
Il faudra qu'on voit peut-être de quelle manière le travail mené par la DBU peut être
Oui,
adapté.
mais, oui, on sait on a identifié de toute façon les représentants
Oui.
de la DBU dans le groupe. Hein. C'est en partenariat. Encore une fois, le dispositif BSN, c'est un dispositif qui met en place des partenariats. Hein. C'est là. Il y avait un troisième axe qui avait été préconisé par le groupe de travail, donc le groupe central de BSN cet hiver. Et j'avoue que je suis soulagé qu'il n'ait pas été retenu dans nos priorités, parce qu'il était passionnant, mais épouvantablement complexe. C'est un peu l'un expliquant peut-être l'autre. C'était faire des préconisations pour la formation initiale. Hein, préconisations pour que la formation initiale intègre les compétences numériques et les compétences à l'information scientifique numérique en particulier. Vous voyez où ça va. Hein? C'est sans doute quelque chose qui vous intéresserait, vous qui vous occupez de formation des étudiants, au premier chef. Hein? Mais passionnant, mais je voyais mal comment on pouvait, dans un terme raisonnable, arriver à proposer autre chose que de l'eau tiède. Hein? Parce que fondamentalement, ma conviction est que l'intégration des compétences numériques et la formation aux compétences numériques passe par la refonte de la pédagogie elle-même. Hein, et ça, je ne voyais pas comment on pouvait, de façon réaliste, sortir comme préconisation. Il faut tout reprendre à zéro dans la façon dont les enseignants font leurs enseignements. Enfin, c'était un suicide. C'était pas trop possible. Et puis, encore fallait-il l'articuler de façon claire, mais j'espère, c'est la fin, j'espère que le dossier ne sera pas abandonné, que ça restera un terrain de réflexion. Il y avait un autre axe qui a été mis au second plan, hein, qui n'est pas prioritaire dans le court terme, mais que j'aimerais ne pas avoir oublié, c'était la mise en place d'un observatoire des pratiques numériques. Hein? Là, il y avait une question de clarifier les rapports avec l'Observatoire des pratiques numériques de l'ENSIB. Il y avait des petits problèmes de définition, mais je pense que ça pourrait être à terme un dossier à reprendre. Voilà, bon, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toutes vos curiosités sur la BSN, mais voilà où on en est.